On peut tout à fait réfléchir à planter une haie aussi comestible, avec des plantes comestibles. Donc du coup, on va plutôt partir sur du cassis, sur du groseillier à grappou, à maquereau. On peut tout à fait aussi rajouter avec un arbrisseau qui ne monte pas très très haut et qui ne se taille pas forcément, eh ben, le noisetier, tout simplement. On peut partir aussi avec de l'aubépine qui pourra nous servir ensuite à accueillir des petits oiseaux. Mais attention, parce que l'aubépine est quand même considérée comme une plante qui a tendance à un peu coloniser. Donc,
Puis ça monte haut, hein, ça oui. peut monter haut l'aubépine, puis ça pique après.
Ça
hein.
pique bien, ouais. Mais c'est pas grave, on peut toujours penser aussi à l'arbousier, l'arbre à fraises.
Ouais, je ne sais pas que ça a grand goût. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des arbouses ?
Ah, on peut faire de la confiture. De la confiture d'arbouses.
Ok. Ouais. J'en ai un, mais je n'en fais jamais rien.
C'est bien dommage. Après, on peut aussi partir sur une haie qui va fleurir toute l'année. Donc du coup, mélanger aussi différentes espèces en ayant aussi, par exemple, du forsythia qui est...
On avait parlé de la Véronique la dernière fois, mais ouais. Là, ça fait du jaune, le forsythia.
Forsythia tout jaune à la sortie de l'hiver. Donc c'est un des premiers arbustes qui va fleurir, qui fleurit beaucoup, qui se taille très bien aussi une fois arrivé à l'automne. Ensuite, on va avoir tout un panel de plantes qui va fleurir au printemps, donc des céanotes, on va avoir des caryoptéris qui vont fleurir bleu pour le coup. On va avoir des spirées aussi, qui sont notamment la variété Van Houtti, qui fait des petites panicules blanches qui attirent les pollinisateurs.
Et des grappes, c'est quoi des panicules ?
Des panicules, c'est des petites grappes un peu en forme de cône, des cylindres cônes. Et donc du coup, qui sont très très jolies.
Mais là, c'est un peu tard pour les planter tout ça, non ?
Non, on est, on commence à arriver sur la période de froid là. Pour les planter, ça va être un peu tard. Il aurait fallu les planter, il y a 3 semaines, c'était l'idéal. Après. Fin d'hiver, début de printemps, ça peut se faire. Là, on va plutôt préparer le moment où on va planter. Donc, on va préparer le sol en apportant du compost. On va pouvoir apporter aussi tout ce qui va être du fumier pour préparer des feuilles mortes. Toujours pailler le sol, hein, jamais le laisser à nu. Et donc, du coup, pour l'ameublir pendant l'hiver. Et donc, au printemps, comme ça, il y aura juste à décompacter le sol pour pouvoir planter ces arbustes.
Est-ce qu'on peut encore tailler ces petits fruitiers ou pas ? C'est trop tard, là ? Cassis, tout ça ?
On commence à être tard, mais le cassis repart très, très bien. On peut y aller sans problème. Moi, le cassis, je le taille quasiment toute l'année. Il n'y a vraiment aucun souci. Et on peut même le diviser à cette période-ci.
À des boutures, ça marche très bien.
Ouais. Alors, les boutures et aussi la division de touffes, parce que le cassis a tendance à vraiment faire pas mal de drageons.
Et comment on fait pour diviser son cassis ?
Alors, on s'équipe d'une belle bêche, bien tranchante, et on y va, quoi.
Ah oui,
taille dans le vif.
Au pied, là, claque, et ça lui fait rien. Ça ne le tue pas.
Ah non, absolument pas. Ce qui ne le tue pas le rend plus fort, d'ailleurs.
Le cassis, c'est increvable.
Ah bah, carrément.
Et c'est bien de tailler un cassis pour avoir plus de fruits. Enfin, c'est qu'il y a un intérêt.
Ouais, carrément. Bah, déjà, pour éviter qu'il colonise tout. Et puis aussi, ça le stimule. C'est le moment aussi de tailler les framboisiers. Pouvoir les rabattre. Donc quand on dit rabattre, c'est les couper à 30 cm. Et vous pouvez aussi les délimiter.
Bah oui, mais parce que c'est ça, le framboisier, ça s'incruste vraiment partout. Quoi. Mais 30 cm, mais pas moins. Enfin, si on coupe tout à ras, ça ne va pas. Quoi.
Vous pouvez le couper à moins, mais vous n'avez pas de certitude qu'il reparte. Et en plus, souvent, quand on le coupe à moins, le premier coup de tondeuse ou le dernier coup de tondeuse, il passe dessus.
Oui. C'est donc, vrai. Parce qu'on l'oublie.
Quand c'est les rejets, il n'y a pas de souci. Quand c'est le plan mère, donc le plan principal.
Celui qui donne les fruits, c'est dommage.
C'est un peu dommage.
Oui. J'avais juste une question subsidiaire sur les haies. Les haies de grimpantes, c'est un concept ? C'est une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée ?
Eh bien ça, je n'ai pas trop d'idées sur le sujet. En fait, les haies de grimpantes, c'est pas mal parce que ça prend quand même moins d'ampleur. En termes de
quoi que le chèvrefeuille, ça en prend partout, mais
Bah oui, oui, mais parce que du coup, il a tendance à aller s'agripper à d'autres, d'autres plantes. Mais si vous mettez juste une treille ou un claustra ajouré et que dessus, vous mettez le plant de grimpante, donc que ce soit le chèvrefeuille, que ce soit le rosier grimpant et qu'il n'y a pas forcément grand-chose autour, il va faire quand même beaucoup moins que, par exemple, une haie de thuya ou une haie de laurier, comme on pouvait avoir... ou une haie de cyprès qui était quand même très très profonde. Et donc c'est l'avantage, maintenant qu'on a des plus petits jardins, d'avoir ces haies grimpantes qui sont quand même moins, moins profondes, enfin moins larges.
Et il y a des grimpantes qui gardent leurs feuilles ?
Oui, oui, vous avez...
En hiver, je veux dire.
Oui, oui, bah, le chèvrefeuille déjà, oui. Qui est semi-persistant, le rosier grimpant, qui va garder son feuillage. Vous avez certaines variétés de clématites, pas toutes. Vraiment, il y a une ou deux variétés de clématites qui vont garder leur feuillage. Et ensuite, le lierre,
et oui, le son lierre, feuillage,
qui reste quand même une plante qui a tendance à nourrir les oiseaux l'hiver quand on commence à avoir froid, donc, et qui abrite une sacrée variété, une sacrée biodiversité, donc c'est plutôt chouette. Puis ça laisse un écran vert qui n'est quand même pas non plus désagréable.
Mmh. Davy, une question pour Marie ?
Ah
sur les haies ?
Non, bah non. Pas. C'est magnifique ce qu'elle dit.
Marie, autre chose à ajouter pour les travaux d'hiver
C'est, au le moment, c'est le moment de surtout pas oublier de faire l'entretien de ces outils, notamment les outils motorisés, qu'on a tendance à un peu sursolliciter toute l'année et puis se dire je ferai la vidange plus tard, je changerai les filtres plus tard. C'est vraiment le moment et c'est important de le faire parce que du coup, vous augmentez la durée de vie de vos outils.
Ouais, ça c'est quand on a des moteurs thermiques. Voilà. Ouais. Après, on a une petite tondeuse électrique, qu'est-ce qu'on fait ? On nettoie la lame. Quoi.
Ouais, un nettoyage, un affûtage de la lame.
Et les outils manuels, pareil ?
Pareil, ouais. Après, moi, j'ai tendance quand même à nettoyer mes outils après chaque cours de jardinage, notamment. Je nettoie ma fourche bêche, je nettoie ma tranche pour pas que ça soit abîmé. Et puis les scies aussi, toujours bien les graisser entre chaque usage pour pas qu'elles rouillent.
Et il n'y a pas un entretien particulier pour les serres, comme les cholets ou des choses comme ça ?
Les cholets ?
Ouais, les enduire de chaux pour pouvoir faire un effet antifongique, ou ce genre de choses. Non, il me semblait avoir lu ça quelque part. Il n'y a pas un entretien, quelque chose de particulier pour les serres ?
Pour les serres, c'est de vérifier qu'elles sont bien ancrées dans le sol, pour les tunnels notamment, pour éviter que la bâche puisse s'envoler avec des éventuelles tempêtes.
Pas du tout. Qu'est-ce que vous dites ?
Bien vérifier qu'il n'y a pas de trous d'accrocs aussi. Et pour ce qui est de l'antiparasitaire, si vous n'avez rien dans la serre, moi je vous encourage à nettoyer, notamment avec un peu de vinaigre, donc pas le sol. On nettoie pas le sol,
ouais, c'est la bâche,
nettoyer la bâche, mettre un petit coup de nettoyage, et notamment parce que pour pas qu'elle verdisse et qu'elle devienne opaque, et donc du coup qu'il y ait moins de lumière qui entre.
Et le vinaigre, ça marche, ça suffit.
Ça c'est un anti fongique aussi, c'est un très bon nettoyant le vinaigre. Ouais.
Ouais, et on répare les bâches avec quoi ? T'as quelque chose ?
Y a du scotch de bâche qui existe.
Mais qui est transparent aussi un petit peu ?
Oui, okay. Tout à fait. Ouais, parce que si vous commencez à mettre du gaffeur comme ils mettent sur les concerts, du scotch noir, c'est quand même moins pratique.
C'est sûr.
Non, du scotch transparent, ça existe. Et il y a même, après vous pouvez doubler avec de la bâche armée aussi.
On peut faire ça.
Ouais, vous pouvez. Donc généralement c'est une bâche qui est quadrillée, qui sert plutôt à mettre sur les bords de piscine, mais qui coûte quand même pas très cher et avec un coup de silicone transparent notamment. Ça, c'est vraiment du bricolage de bricoleur du dimanche qui aime bien vraiment que ça tienne. Et sinon, le scotch répare-bâche, ça existe. Ouais, okay. Tout à fait.
Merci Marie.